souvent possible d'utiliser ces codes, mais à l'occasion, je dois vous avouer que Léo, Alex, Jimmy, c'est des codes vraiment utiles. Mon père en utilise quelques-uns. Il a déjà utilisé le code Léo, il a déjà utilisé le code Jimmy. C'est très efficace, ça règle à peu près tous les problèmes. Donc on va prier après qu'on va lire le texte de ce matin, après ces quelques sourires. Seigneur, on te bénit pour la journée qui débute. On te bénit, Seigneur, aussi pour ta grâce, ta bénédiction sur nous tous. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et que tu es notre refuge, notre sur-retraite, que tu es, Seigneur, celui vers qui on se tourne en temps de besoin, mais aussi, Seigneur, en temps de calme, sachant, Seigneur, que nous dépendons de toi en tout moment et en toutes circonstances. Donc, on te demande, Seigneur, d'étendre ta main et de nous toucher. Ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension et permets à ton esprit, Seigneur, d'œuvrer pleinement dans notre être, en apportant les changements, en apportant les transformations que tu désires apporter. Et en toute chose, Seigneur, nous voulons nous assurer que toute la gloire te revienne à toi, et strictement qu'à toi, et non pas à nous. Alors nous t'avons prié dans le plus précieux des noms, dans le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors je lis pour vous les deux premiers versets dans Ésaïe 61. Alors, en fait, c'est le premier verset, la première phrase du deuxième verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je répète la phrase. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et le texte qu'on étudie cette semaine, « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. »« Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Alors, ce matin, on étudie le terme « malheureux ». Durant toute cette semaine, on a vu que le Seigneur nous avait choisi, nous avait établi, nous avait choisi parmi la masse et nous a choisi même de façon précise parmi l'ensemble du peuple de Dieu, avec pour chacun d'entre nous un mandat, une tâche, un propos qu'il avait adressé à nos vies de toute éternité. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit de la pensée bienveillante de notre Seigneur. Si nous avons vu le jour, si nous existons encore aujourd'hui, c'est que Dieu a encore des choses à faire par nous, à travers nous et pour nous. Et on rend grâce à Dieu de ce privilège qu'il nous accorde d'entendre sa voix et de découvrir quels sont ses plans et ses projets pour chacun d'entre nous. Donc on a vu que il nous avait appelé hier notamment pour porter de bonnes nouvelles qui étaient pour prêcher, pour annoncer, pour publier. Donc de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle par excellence, que nous sommes tous pécheurs, oui, mais avec une possibilité de rachat et de salut à travers la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, le Messie et le Sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette bonne nouvelle qui doit être apportée par chacun d'entre nous doit être apportée aux malheureux. Le terme malheureux, c'est le terme anav, A-N-A-V, je répète, A-N-A-V, j'ai pas le nombre de fois qu'il apparaît, je pourrais le, vous le stipuler demain. Aujourd'hui, j'ai oublié de recenser le nombre de fois qu'il apparaissait dans l'Ancien Testament. Donc, le terme malheureux, et on va voir différentes déclinaisons de ce terme ce matin pour essayer d'en comprendre un peu mieux la portée. Malheureux, parfois, va être traduit par pauvre, va être traduit par nécessiteux, par humble, par affligé, par doux et par faible. Donc, je répète les synonymes qu'on voit régulièrement. Pauvre, nécessiteux, humble, affligé, doux et faible. Donc, aléatoirement, dans la parole de Dieu, selon la traduction, selon la version que vous avez en français ou dans la langue que vous utilisez habituellement, vous allez avoir un de ces mots qui va être utilisé pour le terme « anav ». Mais le plus régulier est effectivement le terme « malheureux ». Donc, ce matin, on voit cinq déclinaisons, parfois avec deux mots que j'ai mis en connexion. Donc, cinq déclinaisons qui vont nous permettre effectivement de comprendre vers qui doit être porté ce message que le Seigneur nous donne. De surcroît à cela, ça va nous permettre de comprendre la pensée de Dieu sur ceux qui ne le connaissent pas. On parle souvent du malheureux, mais on pense que le malheureux doit nécessairement connaître son statut de malheureux. J'allais faire une redondance, j'allais dire, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Un malheureux, c'est quelqu'un qui est dans un statut moindre, bien moindre que ce qu'il devrait connaître. Donc, parfois, on est conscient qu'on est dans un état inférieur à celui auquel on est appelé ou celui auquel on pourrait prétendre. Mais parfois, tout simplement, on est dans une espèce d'habitude, dans une espèce de prise pour acquis qui fait en sorte que on estime que l'état qu'on connaît actuellement est tout à fait celui qui est normal, régulier. Donc voilà pourquoi très souvent le pécheur n'est pas dans la tristesse qu'on associe habituellement avec le terme malheureux, mais c'est pas parce que tu n'es pas dans la tristesse que tu n'es pas nécessairement dans un point inférieur à celui que Dieu avait estimé pour toi. Et aux yeux de Dieu, effectivement, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu te destines vers une condamnation éternelle, tu pratiques une vie actuellement sans la présence de Dieu, sans l'approbation de Dieu, et dans la pensée même de notre Seigneur, une vie sans lui, une vie en l'oubliant, une vie qui n'est pas menée selon ses principes, ses préceptes et sa pensée, est une vie qui est à la base malheureuse. Donc voyons ces cinq termes ou ces cinq groupes que j'ai reliés pour vous. Premièrement, on va donc avoir la traduction pauvre et nécessiteux. Malheureux, anav, pour une connotation ou un synonyme pauvre et nécessiteux. Le pauvre, c'est celui qui est en manque de richesse. Le pauvre, c'est celui qui est en manque de ce qui est nécessaire pour le maintien de la vie. Quand on dit qu'on vit sous le seuil de la pauvreté, c'est qu'au-dessus de ce seuil de pauvreté, on est dans ce que ça prend pour tous les jours. Et quand on monte, on tombe dans ce qu'on appelle la richesse. Mais lorsqu'on estime que quelqu'un est pauvre, c'est qu'il vit en dessous de ce qui est nécessaire aux yeux de ses concitoyens pour mener une vie normale. Et à la face de Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous vivons sans Dieu, lorsque nous vivons éloignés de Dieu, lorsqu'on vit en ayant tourné le dos à Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes effectivement en manque de richesse, voire même en manque de ce qui est nécessaire pour notre quotidien. Et voilà pourquoi dans le Notre Père, dans la prière que Jésus va enseigner à ses disciples, une des premières choses qu'il va leur dire, c'est que lorsque vous priez à Dieu, dites « Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc, donne-nous aujourd'hui ce qui est nécessaire à notre vie d'aujourd'hui. Ça veut donc dire que dans la pensée de Dieu, si je ne suis pas avec lui, je n'ai pas non plus les ressources pour aller chercher ce qui m'est nécessaire. Comment peut-il penser une telle chose? L'explication est relativement simple. Puisqu'il nous a créés pour un objectif, puisqu'il nous a créés dans un plan précis où il est partie prenante de ce plan et où l'aboutissement de notre quotidien sert à l'avancement de son royaume, sans lui, nous n'avons pas donc l'Esprit de Dieu sur nous, nous n'avons pas l'onction de Dieu sur nous, nous n'avons pas la bénédiction de Dieu sur nous. Alors nous passons notre vie en deçà, nous passons notre vie en dessous des normes qu'il avait établies pour nous. Et voilà pourquoi, à ses yeux, nous sommes effectivement en manque de richesse. Dans le Nouveau Testament, on va avoir ce passage qui dit d'acheter du Seigneur du collyre pour nos yeux, pour qu'on voit notre réel état. C'est-à-dire, tu penses que tu es habillé, mais tu es nu. Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Donc, je te conseille d'acheter de moi du collyre pour tes yeux, afin que tu vois. Dans le livre d'Apocalypse, vous verriez ce texte. Donc, ça veut donc dire qu'on peut penser être tout accompli. On peut penser être parvenu à une stature de bien-être, mais aux yeux de Dieu, il est tout à fait d'avis que nous ne sommes pas même proches de ce que nous devrions être. Donc sans Dieu, nous sommes considérés comme pauvres et malheureux, que nous le reconnaissions ou que nous ne le reconnaissions pas. Et très souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de pauvres spirituels autour de nous que nous croyons, lorsqu'on se compare à certains, parce qu'on a déjà fréquenté l'Église, parce que nos parents peut-être fréquentent, parce qu'à l'occasion, on participe à un culte ou à l'occasion, on élève une prière, on se dit, on n'est pas aussi pire qu'eux. Donc, n'étant pas aussi pire que les autres, n'étant pas aussi mal, être aussi pire, ça c'est très québécois, donc on s'excuse pour ceux qui sont à l'étranger, puisqu'on n'est pas aussi mal que les autres, on pense donc qu'on est bien. Mais c'est pas parce que je suis moins mal que les autres que je suis nécessairement bien. Et sans Dieu, je ne peux pas être considéré comme étant bien. Donc, nous avons ce mandat d'aller évangéliser, d'aller parler aux malheureux, qu'ils sachent ou non qui est effectivement malheureux. On parle par la suite de celui qui est humble. Celui qui est humble, ça va plutôt dans la pensée de celui qui est humilié. Je sais qu'on a dans certaines traductions et dans certaines langues, on utilise le terme humble pour quelqu'un qui est effectivement d'une condition moindre et d'une condition peu enclin, on va dire, à l'orgueil. Ici, on parle vraiment d'une notion de quelqu'un qui a été humilié, donc quelqu'un qui a perdu son honneur. Nous étions à la création des enfants de Dieu parfaits dans tout ce que nous faisions, dans tout ce que nous étions. Nous étions aussi éternels, créés par Dieu, mais vivants pour l'éternité. Et à cause du péché originel, je vais prendre une gorgée. À cause du péché originel commis par Adam et Ève, toutes les générations qui ont suivi sont donc entachées par par le péché et par la marque du péché. Et ce faisant, de l'honneur que nous avions d'être proches de Dieu, de l'honneur qui nous était fait d'être des intimes avec Dieu, nous sommes devenus des fils illégitimes, des filles illégitimes, nous avons été renvoyés même de la présence de Dieu et nous avons perdu l'honneur qui était associé à nous en tant que création de Dieu. Cet honneur peut donc être restauré avec une restauration de notre intimité et de notre lien à Christ. Donc celui qui est pécheur, celui qui est condamné, c'est comme un prisonnier qui vient de recevoir sa sentence. Nous avons tous été sentencés. Hier, j'expliquais que la bonne nouvelle, c'est le fait que tous étant sentencés, tous étant appelés donc de par notre nature pécheresse, à une condamnation éternelle, nous recevons la grâce de Dieu pour parvenir au salut et à la vie éternelle en la présence de Dieu. Mais sinon, nous tous, nous sommes humiliés, ayant perdu notre statut d'enfant de Dieu. Statut qui est restauré strictement dans une présence et dans une intimité et dans une relation avec Dieu. Donc, lorsque nous nous adressons effectivement à notre prochain et que nous lui partageons le plan du salut, que nous lui partageons le message de la bonne nouvelle de Christ, Sauveur de l'humanité, Seigneur des seigneurs et Roi des rois, nous donnons à quelqu'un l'occasion de voir son honneur restauré. C'est un peu cette image du fils prodigue. Le fils prodigue qui était dans la maison de son père, qui s'en est éloigné et qui, à un moment donné, retourne vers son père. Et on voit que son père, la première chose qu'il fait lorsque le fils prodigue revient à la maison, c'est qu'il rétablit son honneur en posant sur ses épaules un blouson, une veste, une robe glorieuse. Il nettoie, il lave le fils, il remet un anneau à son doigt qui restaure son autorité, qui restaure sa position d'autorité dans la famille de Dieu. Et il met même des sandales à ses pieds. Et ça, c'est un point important qu'on oublie régulièrement dans cette histoire. L'individu qui ne portait pas de sandales et qui ne portait pas de couvre-pieds à l'époque était un individu qui était un esclave. Donc, cet individu qui marchait nu-pieds, qui revient vers son père, ce qu'on oublie parce qu'on connaît peut-être pas les faits historiques d'une telle histoire, c'est qu'en revenant vers son père avec les pieds nus, ben il était en train de dire « j'ai été esclave ». Donc de sa gloire de fils dans la maison de son père, qui a dilapidé tout son argent, qui est allé jusqu'à nourrir les pourceaux alors qu'il est juif, donc même ces pourceaux-là qu'il est en train de nourrir, il ne pourra jamais goûter au bacon, au jambon qui vient de ce pourceau-là. En fait, il est en train de nourrir des bêtes qu'il considère lui-même comme étant impures. Donc, il est en train de donner la nourriture à la chose la plus impure qui soit. Et ça, c'était réservé au plus vil des serviteurs. De surcroît à cela, lorsqu'il revient vers son père, il revient sans chaussures, confessant et admettant qu'effectivement, il a perdu tout honneur à être même maintenant rendu comme un esclave. Donc, le père va le restaurer dans toute sa stature, dans toute sa splendeur, et c'est encore aussi possible pour nous aujourd'hui. Donc, nous avons ce message merveilleux, cette bonne nouvelle qui dit à celui qui est esclave du péché, celui qui est esclave de l'iniquité, à celui qui est rendu déshonoré par son abandon de Dieu, nous avons encore la bonne nouvelle à lui enseigner, à lui propager et à lui proclamer comme quoi Christ veut encore le recevoir. Alors, je ne sais pas où tu es ce matin, je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu, mais si tu t'es éloigné de Dieu, regarde, ses bras sont encore ouverts pour te recevoir ce matin et pour t'accueillir. Ton histoire n'est pas terminée, tu es encore vivant, tu n'es pas allé trop loin pour que son bras ne soit pas assez long pour te saisir et te ramener. Je t'invite simplement, cours vers la maison, cours vers le Seigneur, il t'attend avec amour et avec grâce. Et ça fait partie de la bonne nouvelle qu'on annonce. Donc, on parle aux pauvres, on parle aux humbles ou aux humiliés. La Bible nous dit qu'on parle aux affligés. Allez dire aux affligés d'Israël. Et affligé, c'est celui qui a été blessé. Et assurément, chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, on a été blessé. Chacun d'entre nous, parce que nous sommes pécheurs et parce que nous vivons au milieu d'une foule de pécheurs, nous avons blessé et nous avons été blessés. Et le Seigneur nous envoie donner de bonnes nouvelles à ceux qui ont été blessés. Ça veut dire que peu importe quel a été le cheminement qui a été le tien, peu importe les blessures que tu as traînées jusqu'à aujourd'hui, notre Dieu veut réparer ses blessures. Notre Dieu veut panser ses blessures. L'image qui nous vient, bien sûr, tout de suite en tête, c'est cette image du bon samaritain qui s'arrête en dépit d'une identité, d'une ethnie différente, en dépit du conflit qu'il a habituellement avec un juif, le bon samaritain qui voit ce juif qui a été outragé par des brigands, qui a été laissé pour mort. Il va le prendre avec grâce, il va le prendre avec affection et amour, le mettre sur sa monture, va l'amener jusqu'à l'auberge et va même payer, alors que lui doit continuer son chemin, va même payer pour les traitements qu'aura besoin cet homme qui a été recueilli sur le chemin. Et il va dire à l'aubergiste, s'il manque de quoi, quand je vais repasser, je te donnerai ce qu'il manque. Donc c'est cette image de grâce, d'amour que nous avons aussi à travers cette bonne nouvelle. Alors, peu importe ta blessure aujourd'hui, laisse-moi te dire que notre Dieu est bon et qu'il veut guérir les blessures du passé. Il veut te permettre de ne plus vivre dans la peur. Il veut te permettre de ne plus vivre dans la douleur. Il veut te permettre de ne plus vivre dans l'aigreur. Très souvent, lorsqu'on a été blessé, on a ce réflexe de protection qui devient jusqu'à un certain point beaucoup plus offensif et beaucoup plus virulent qu'autre chose. Tout simplement parce qu'on a peur d'être blessé une nouvelle fois. On devient nous-mêmes blessants envers les autres. Le Seigneur veut réparer ça. Le Seigneur veut amener la paix dans ton cœur. Le Seigneur veut amener la paix dans ton esprit et dans ton âme. Et cette source de paix ne se trouve nulle part d'autre. Cette source de paix ne se trouve nulle part ailleurs que dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même va dire, je vous laisse une paix, non pas comme le monde la donne, mais je vous donne une paix en abondance. Et cette paix qui dépasse même l'entendement. Cette paix qui fait que même si tu as été blessé au plus profond de ton âme, tu vas pouvoir voir quelqu'un qui autrefois t'a blessé et tu ne seras plus dans ce réflexe de vengeance, dans ce réflexe d'autoprotection. Tu vas rester calme et paisible parce que le Seigneur a fait son œuvre en toi. Donc nous apportons aussi de bonnes nouvelles à celui qui a été affligé. On apporte de bonnes nouvelles à celui qui est doux. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, celui qui est doux? En quoi a-t-il besoin d'être secouru? Lorsqu'on parle de celui qui est doux dans la parole de Dieu, on parle surtout de celui qui répond avec douceur. Et très souvent, c'est celui qui subit les outrages. Dans cette pensée de doux, c'est celui qui n'a pas le cran, allons-nous dire, pour répondre avec vigueur à ceux qui l'outragent. Peut-être as-tu été malmené, peut-être as-tu été outragé, peut-être a-t-on mal parlé de toi, peut-être a-t-on établi une mauvaise réputation à ton égard en inventant tout un tas de choses. Laisse-moi te dire encore une fois que la bonne nouvelle de Christ vient te dire que Christ te connaît et qu'il t'aime tel que tu es, et qu'il veut tout simplement te recevoir à bras ouverts. Il t'aime tel que tu es parce qu'il sait ce qu'il est capable de faire avec toi et pour toi. Alors, quelles que soient les malédictions qu'on a prononcées sur ta vie, parfois on grandit et il y a des gens qui nous entourent et qui nous disent qu'on va être un bon à rien ou qu'on ne va servir à pas grand-chose de tout notre vivant, qu'on est un imbécile, qu'on est un moins que rien. Laisse-moi te dire, le moins que rien que tu étais assez précieux aux yeux de Jésus pour qu'il meure pour toi. Ça veut donc dire qu'il t'aimait, mais qu'il t'aimait profondément. Aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun d'entre nous ne naît innocent. Aucun d'entre nous ne vit innocemment. Aucun d'entre nous n'est juste ni saint, à moins de venir à Christ et d'être purifié pour nos péchés et nos iniquités. Et j'aimerais te dire encore une fois, j'arrête pas de dire j'aimerais te dire ce matin, mais je sens qu'on est en train de parler ce matin à des cœurs et à des situations spécifiques. Peu importe les outrages qu'on t'a fait, peu importe les menaces qu'on t'a fait, la Bible nous dit qu'il change les malédictions en bénédiction. Même ceux qui t'auraient dit que tu étais une malédiction dans ta famille, dans ton groupe, dans ton emploi, voire même dans ton église. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit que Dieu change les malédictions en bénédictions. Alors même si tu étais, ce n'est pas le cas, mais même si tu étais cette malédiction que tout le monde a annoncée, laisse-moi te dire que Dieu te change en bénédiction. Dieu a ce pouvoir, Dieu a ce désir, Dieu a cette volonté de faire de toi une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Dernière connotation qu'on voit ce matin, après pauvre, humble, affligé, doux, faible. Faible, c'est celui qui ne peut pas assurer sa propre protection. Celui qui ne peut pas assurer sa propre protection. Voilà ce que Jésus pensait lorsqu'il regardait sur Jérusalem et qu'il était ému de compassion envers la ville. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus regardait Jérusalem et la regardait comme étant un troupeau sans berger. Les brebis sont les bêtes les plus inoffensives qui soient. Les brebis, les moutons sont les animaux avec le moins de protection qui existe. Ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas de griffes acérées, ils n'ont pas de crocs bien tranchants, ils n'ont pas de carapace, ils n'ont pas de sabots bien solides. Et même, je vous dirais que lorsqu'une brebis tombe sur son dos, les quatre pattes en l'air, il lui est techniquement impossible de se relever. Ça lui prend un berger. Une brebis, c'est un de ces animaux qui a toujours besoin de l'humain à ses côtés pour qu'elle puisse être prise en compte, prise en charge, prise en soin. Donc, toi et moi, nous sommes des brebis. Que nous soyons près de Dieu ou éloignés de Dieu, nous sommes des brebis. Nous avons cette nature de brebis. Et un troupeau peut être sans berger. Quand nous sommes loin du Seigneur, quand nous nous éloignons de Dieu, nous vivons effectivement une vie sans ce berger parfait, excellent et merveilleux qu'est Jésus. Donc lorsque nous nous approchons pour partager la bonne nouvelle, nous devons nous rappeler que nous nous approchons d'une brebis qui est sans ressources, qui est sans protection. Est-ce que la brebis sait qu'elle est sans protection? Je vous dirais qu'avec l'expérience, probablement qu'à un moment donné, elle arrive à réfléchir et à se dire « Je suis mieux de déguerpir parce que j'ai rien pour me défendre. » Mais probablement, comme toute jeune bête, lorsqu'on grandit, on pense qu'on est plus fort, qu'on est plus solide, qu'on est plus capable de faire que ce qu'on peut dans la réalité. Et ces gens qui nous entourent peuvent ne pas être conscients qu'ils sont effectivement en danger. Ils sont en danger parce que déjà condamnés à la mort. Ils sont en danger parce que, n'étant pas sous la protection de leur Dieu, ils sont en danger parce que, ne connaissant pas leur propre faiblesse, ils peuvent donc errer à droite et à gauche et se mettre encore plus dans le pétrin. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que lorsque nous allons témoigner autour de nous, témoignons autour de nous en comprenant quelle est la pensée de Dieu pour les gens qui nous entourent. Peut-être si tu ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, peut-être que si tu ne l'as pas comme maître et Seigneur aujourd'hui, peut-être que tu prends ces qualificatifs pour toi aujourd'hui et c'est une bonne chose. Et sache que le Seigneur est là pour t'accueillir. Mais de surcroît à cela, pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, pour ceux qui vivent déjà auprès du Seigneur, qui ont déjà une intimité avec Dieu, rappelons-nous que lorsque nous portons cette bonne nouvelle, nous portons cette bonne nouvelle à des hommes, à des femmes qui, aux yeux de Dieu, sont malheureux, qui sont nécessiteux, donc qui n'ont pas ce qui est nécessaire pour mener la vie qu'ils doivent mener, qui ont été humiliés, qui ont perdu leur honneur parce qu'ils étaient effectivement comme nous tous. Je m'excuse. Ils sont comme nous tous ou comme nous étions, chassés de la gloire et de la présence de Dieu et déshonorés par notre péché et notre iniquité. Ce sont des gens qui ont été blessés par la vie, par leurs concitoyens, par leurs contemporains, blessés par eux-mêmes, blessés parfois même par des intimes, par des proches. Ce sont des gens qui ont subi des outrages. Et ce sont des gens qui ne peuvent pas assurer leur propre protection. Peut-être que je reviendrai très brièvement sur ce dernier point. J'aimerais te dire, tu ne peux pas assurer ta protection par toi-même. Une brebis ne peut pas se protéger par elle-même. Une brebis a besoin d'un berger. Une brebis a besoin d'un bon berger. Non pas d'un mercenaire qui fuit lorsque la pression vient ou qui fuit lorsque une bête sauvage vient ou qui fuit lorsqu'un voleur vient. On a besoin d'un bon berger, celui qui est avec nous quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort et que sa présence te rassure et me rassure. Alors je prie aujourd'hui que tu fasses de Jésus effectivement ton berger. Il est déjà le seul et l'unique bon berger qui existe. Je prie qu'il devienne le tien aussi. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Laissez-moi prier pour vous, pour moi, et laissez-moi rendre grâce au Seigneur pour nous tous. Seigneur, nous comprenons que sans toi, nous sommes perdus. Nous comprenons que sans toi, nous ne pouvons pas mener la vie que tu désirais qu'on mène. Nous comprenons, Seigneur, que sans toi, il nous est impossible de parvenir au salut. Nous comprenons que sans toi, il nous est totalement impossible de mener la vie parfaite à laquelle nous aspirons et cette vie parfaite pour laquelle tu nous as créés. Tu connais nos forces, tu connais nos faiblesses, tu connais notre appel, tu connais, Seigneur, les choses que tu avais pensées, préparées pour nous. Et nous savons que ces choses sont bonnes. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi et nous assurer d'être dans ton intimité, afin d'entendre ta voix, afin d'être modelé par tes mains, afin, Seigneur, d'être façonné et transformé par ton esprit. Mais de surcroît à cela, Seigneur, nous comprenons que la grâce se doit d'être propagée. La grâce se doit d'être propagée même dans une génération comme la nôtre qui t'a tourné le dos. Une génération comme la nôtre qui s'est défait de ce qui te concernait, qui a voulu, Seigneur, annihiler toute notion du divin. Seigneur, nous voulons être tes porte-voix, nous voulons être tes ambassadeurs. Nous voulons être ces porteurs de bonnes nouvelles pour dire, Seigneur, que tu changes effectivement la malédiction en bénédiction. Pour dire qu'effectivement, Seigneur, c'est toi qui donnes le pain quotidien. Pour dire à celui qui a été humilié par son péché, par sa condamnation, que la restauration est possible et est désirée par toi. Pour dire, Seigneur, à celui qui a été affligé et blessé, que tu es le seul bon berger qui panse les plaies et qui rétablit celui qui a été blessé. Pour dire à celui qui a subi les outrages, que tu es notre avocat auprès du Père, en témoignant en notre faveur. Pour dire à celui qui est faible et qui ne peut assurer sa propre protection, que tu es effectivement notre refuge, notre haute retraite. Alors Seigneur, permets-nous aujourd'hui de partager ce merveilleux message. Permets-nous aujourd'hui de partager cette bonne nouvelle. Et permets, Seigneur, à ceux qui ont entendu cette bonne nouvelle peut-être pour une première fois, de l'expérimenter dans leur propre vie, de façon palpable et tangible. Seigneur, il y a des gens ce matin qui retournent à toi. Il y a des gens qui viennent aussi à toi ce matin pour une toute première fois. Merci de les recevoir, de les accueillir, de changer leur vie. Je prie, Seigneur, qu'ils aient ce désir d'écouter ta voix, de chercher ta face, afin, Seigneur, d'être guidés par toi dans cette vie que toi tu leur as accordée et dans cette vie, Seigneur, que tu veux meubler de prodiges, de hauts faits pour ton royaume et pour l'avancement de ton royaume. Alors j'appelle ta bénédiction et ta grâce sur ma sœur, sur mon frère, sur nos amis qui se sont joints à nous ce matin. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, dans le précieux nom de notre Sauveur, dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors laissez-moi juste saluer quelques personnes. Je n'aurai pas tout le monde, juste saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Donc on avait Tatiana qui était la dernière, je crois. Bonjour à Sonny, à Mildred, à Natacha, à Indiren. Bonjour à Maggie, à Marie-Huguette, à Diana et à Juan Ramon. Bonjour à Nadia, bonjour à Yann et Félicité, bonjour à Yvelin et Maureen. On attend toujours le petit Yvelin Junior, bonjour à Max et à Noémie, bonjour à Farley, à sa maman Marie-André, bonjour à Denise, cette fois-ci de Laval, bonjour à Daniel, ça fait quelques jours que je ne vous voyais pas, content de vous avoir avec nous Daniel. Soyez bénis. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à Linda. Je crois que c'est tout pour les salutations ce matin. On se retrouve donc demain matin, 8h30. Demain, vous savez que c'est notre journée de jeûne et de prière depuis déjà plusieurs mois maintenant. On prend le vendredi dans la prière et dans le jeûne pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent. Donc, on se retrouve deux fois demain. Demain matin à 8h30 pour la bénédiction matinale qui va être de la prière bien entendu et demain soir aussi pour notre soirée de prière et d'intercession et ce sera l'occasion de présenter en direct des requêtes et des prières selon vos suggestions. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée dans la présence de celui qui vous a aimé jusqu'à donner sa vie pour vous. Je vous souhaite une bonne journée aussi à témoigner de cette bonne nouvelle à ceux qui vous entourent. D'ici le couvre-feu, pourquoi ne pas aller prendre une marche et voir comment le Seigneur va vous guider pour parler à quelqu'un, d'une part, et deuxièmement, même une fois que le couvre-feu est sur nous, pourquoi ne pas laisser le Seigneur vous guider en appelant quelqu'un pour lui dire « Regarde, j'ai juste envie de te dire que le bon berger t'aime ». J'ai juste envie de te dire que le Seigneur t'aime et je prie pour toi. Donc, petite suggestion pour aujourd'hui. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse. Et si vous le faites, et si vous avez effectivement de beaux témoignages demain, écrivez-moi pour me dire comment le Seigneur vous aura utilisé et à qui vous aurez parlé. Ça va égayer notre journée. Alors, sur ce, bonne journée à tous. On se retrouve demain. Au revoir tout le monde.